Bonjour mes frères et sœurs. Est-ce que nous sommes tous conscients de la présence du Seigneur au milieu de nous? Dans la parole de Dieu, il est dit que les conducteurs spirituels y veillent sur les âmes dont ils devront rendre compte. C'est écrit. Voilà à quoi sert un responsable d'église, il veille sur vos âmes dont ils devront rendre compte, c'est dans Hébreux chapitre 13. Avant d'introduire cette prédication, je voudrais vous parler quand même de quelque chose que comprennent les gens spirituels. Beaucoup de gens ne sont pas spirituels, même dans nos églises. C'est très bien expliqué dans les Philippiens. L'apôtre Paul est en prison, il ne parle que de se réjouir. Si vous lisez l'épître aux Philippiens, vous allez voir 7, 8, 10 fois, Paul demande aux chrétiens de se réjouir. Réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et pourtant, en même temps qu'il demande cette affaire, au chapitre 3 et au verset 17. Regardez ce que Paul dit. Le cœur d'un disciple, d'un vrai disciple, pas d'une manière émotionnelle, mais d'une manière spirituelle et comme une pièce de monnaie. D'un côté, il a une joie indescriptible. On l'a chanté ce matin. Ma joie est immense. Il y a dans le cœur d'un chrétien, d'ailleurs les seuls aujourd'hui, les seuls qui peuvent être joyeux, vraiment joyeux, une joie profonde, ce sont les vrais chrétiens. Mais en même temps, ces mêmes chrétiens qui sont, comme je vous le disais, comme une pièce de monnaie, il y a l'autre versant où il est dit, regardez ce que Paul dit, Philippiens 3, 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. » Et j'en parle maintenant encore, comment ? En pleurant. Leur fin sera la perdition. Vers la fin du verset 19, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et mes frères et sœurs, si d'un côté il y a une joie indescriptible à cause du salut de l'âme, à cause des vérités spirituelles, il y a aussi un cœur peiné, pour les chrétiens, parce qu'on a la crainte, on a de la peine pour les pécheurs. Mais mes frères et sœurs, en tant que conducteur de l'Église, je pense vraiment déjà à ceux qui, au milieu de nous, ne sont pas prêts. Moi, ça me brise le cœur. Les prophéties, les chants, même les chants qui ont été choisis, étaient aussi des chants d'appel, même si c'était deux chants sur le salut, vous avez vu les autres chants? Pourquoi? Eh bien parce que le Saint-Esprit sait que plusieurs parmi nous ont vraiment besoin de venir, de revenir. Et dans la parole de Dieu, on le voit constamment. Mes frères et sœurs, je vous assure, au milieu de nous, je sais que des milliers de gens écouteront cette prédication et que beaucoup pourraient dire « mais c'est pour les gens qui l'écoutent sur Internet ». Oui, mais au milieu de nous, il y a des chrétiens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous allez me dire « ouais, mais on est là dans l'église, on aime le Seigneur ». Ce n'est pas vrai. C'est de la superstition. Moi, le message que j'ai reçu, j'aurais aimé avoir autre chose. Dans le prophète Amos, on voit un pays qui s'est égaré, complètement égaré, loin de Dieu. Ce n'est pas la première fois, hélas. Et vous avez le Seigneur qui parle au travers de ce prophète qui est rempli d'amour. Dieu parle, Amos chapitre 4, vous connaissez ce chapitre où il y a une invitation de la part du Seigneur. Mais moi, vous savez, franchement, je suis profondément préoccupé. Parce que justement, dans cette assemblée, vous entendez régulièrement l'appel de Dieu. Et certains se sont endurcis à un point qu'ils ne peuvent même pas se l'imaginer. Cette prophétie qui s'adressait à quelqu'un qui a été béni depuis des décennies et qui est comme Samson, qui tourne en rond, à moins que ça vienne de moi. Si ça vient de moi, tant pis, tant mieux. Mais si ça vient de Dieu, est-ce que vous réalisez la gravité? Quelqu'un qui, depuis 47 ans, se trouve à tourner en rond. Moi, ça me fait peur. Hein. Amos chapitre 4. Regardez ce texte, au verset 4. C'est Dieu qui parle, c'est pas Amos. Un pays qui, je vous le rappelle, il s'est détourné de Dieu, aimé de Dieu comme c'est pas possible, comme nous. Et regardez comment Dieu parle, ça fait peur. Allez à Bethel et péchez. Vous vous rendez compte comment Dieu parle? Allez à Gilgal, des lieux de culte, tout ça, et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. C'est interdit. Et Dieu dit, faites-le. Offrez des sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire nos cantiques à nous, tout en vivant dans le péché. Allez-y. Tu te dis, mais c'est pas possible. Heureusement que c'est Dieu qui parle comme ça. Car c'est là ce que vous aimez, dit le verset 5. Et du verset 6 au verset 12, vous voyez tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, il essaye de rattraper le cœur de ces hommes. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, je ne fais pas pleuvoir sur une autre ville. Fin du verset 8. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai envoyé, j'ai envoyé parmi vous la peste. Comme en Égypte. Fin du verset. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi. Je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous gardez le passage, s'il vous plaît. Vous venez avec moi dans Actes chapitre 17, au verset 30. Je voudrais que nous lisions, que nous réalisions que c'est Dieu qui parle. Ça a été écrit pour notre instruction, ça a été écrit pour que toute notre vie, nous puissions en tenir compte. Actes 17, verset 30. Actes 17, verset 30. Regardez cette parole, elle est terrible. Mais elle est vraie, comme toutes. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, ce mot revient souvent dans la Bible, maintenant, annonce maintenant à tous les hommes, tous, du clochard le plus bas tombé au notable le plus élevé, Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Amen. Et nous pourrions prendre d'autres textes qui indiquent exactement la même chose, présentés d'une manière différente. Mais moi, mon message ce matin, bien sûr, j'ai mis comme titre, j'aurais pu mettre plusieurs titres, « Tout homme viendra en jugement ». Vous le croyez, ça? Beaucoup de chrétiens ne le croient pas. S'ils le croyaient, laissez-moi vous dire qu'ils auraient un respect des choses spirituelles, hein, autres. Quand est-ce qu'on est prêt? C'est des questions que je dois me poser. Quand est-ce qu'on n'est pas prêt? Est-ce que parce que je suis dans une église, je suis prêt? Vous comprenez bien que ça serait trop facile. Jésus n'a pas dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des chrétiens dans les églises ?» Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? À quoi reconnaît-on quelqu'un qui n'est pas prêt? Est-ce qu'on peut savoir? Nicolas, lorsqu'il a présenté la Sainte Cène, a évoqué cet homme que Dieu a choisi parce que sa maison était prête. Mais si on va dans Luc 12, regardez, dans Luc 12, c'est exactement l'inverse. C'était magnifique le texte qu'a pris Nicolas, non? Vous avez écouté? C'est merveilleux. Oui, Dieu a choisi un homme parce que sa maison était prête. Quel honneur! Mais regardez dans Luc, c'est dans Luc 11? Luc 12, pardon. Dans Luc 12, au verset 47, regardez, c'est la parabole des deux serviteurs, c'est Jésus-Christ qui parle. Mais regardez, c'est une parabole terrible. Et il nous est dit au verset 47, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé. » Et il y a des chrétiens qui connaissent la volonté de Dieu. Ils l'entendent, ils la réentendent, ils la réécoutent d'une façon ou d'une autre, comme c'est le cas ce matin. Et ils ne préparent rien. Vous relirez cette parabole et vous allez voir les conséquences de ces chrétiens qui ne préparent rien, qui ne pensent qu'aux choses de la terre. La retraite, la maison, la gouttière qui est percée, ça c'est important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de ces choses. Mais il y a des gens qui n'ont rien préparé. Au milieu de nous. Je ne vois pas pourquoi Dieu me donnerait ce message si ce n'était pas pour nous. Ou pour quelqu'un au milieu de nous. Est-ce que vous préparez ce jour? Vous avez vu tout ce que Dieu est obligé de faire? Et on pourrait prendre d'autres textes. C'est intéressant en même temps. C'est intéressant, oui. Mais Dieu invite. Dieu n'arrête pas d'inviter. Ce matin, dans un culte, alors qu'il n'aurait pu y avoir que des cantiques d'adoration. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous êtes d'accord avec moi? Si notre frère, M. Fabio, n'avait pris que des cantiques d'adoration, est-ce que vous auriez été d'accord? Ben oui. Mais si Dieu l'a poussé à prendre des cantiques où il invite les hommes, c'est la preuve que des chrétiens ne sont pas prêts. Et moi, ça ne me fait pas rire du tout. Parce que c'est ma responsabilité. Il est dit, je vous l'ai cité, je n'avais pas les lunettes, on va le lire, parce que les chrétiens ne sont pas conscients de ces choses. Les gens demandent de bonnes prédications. Ça arrive, ça, monsieur Gaud, j'espère que vous allez nous faire une bonne prédication. C'est ça que vous voulez, une bonne prédication? On n'a pas besoin d'une bonne prédication. Regardez ce texte, Hébreux 13, verset 17. Je ne sais pas si nous réalisons pourquoi Dieu place des conducteurs dans une église. Hébreux 13, verset 17. Ça me travaille vraiment. Regardez, Hébreux 13, verset 17. Vous y êtes, hein? Obéissez à vos conducteurs. Ah, ça vous plaît, ça? Rien que ça vous plaît? Il y a déjà, ils ne supportent pas. Alors que tous les ordres de Dieu, tous les commandements de Dieu sont des bénédictions. Pas possible. Obéissez à vos conducteurs. Ah, moi, il n'est pas question que j'obéisse à un pasteur. Ah oui? Et si le pasteur vous parle de la part de Dieu, laissez-moi vous dire que vous désobéissez à Dieu. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a une personne parmi nous qui est exactement dans ce cas de figure. Mais c'est grave, hein? Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Vous n'avez pas qu'un corps. Vous avez une âme et votre âme, notre âme, un jour, nous sera redemandée. C'est écrit ça ou c'est pas écrit? Notre âme ne nous appartient pas. Rien ne nous appartient. À part la minute qu'on est en train de vivre, rien ne nous appartient. Il veille sur vos âmes. Moi, ce matin, je ne suis pas là pour vous faire une bonne ou une mauvaise prédication. Je suis là pour veiller sur votre âme, dont je devrais rendre compte. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. C'est mon cas, quand même. Et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Il y a des églises où il y a tellement de rébellion, de désobéissance, d'insoumission, que les pasteurs sont épuisés. Et il ne faut pas s'étonner, et ça ne m'étonnerait pas demain d'entendre encore à la pastorale qu'un pasteur démissionne. parce que l'apostasie s'installe dans l'Église, et c'est vrai que nous sommes là, Seigneur, sauve des âmes dans cette ville de Toulouse, et il faut continuer à le faire, et un chrétien qui aime Dieu ne pourra pas faire autrement que de prier pour le salut des âmes. Mais moi, le salut des âmes, bien sûr que ça me préoccupe, mais en tant que pasteur, moi, c'est le salut des chrétiens. C'est le salut des chrétiens qui me préoccupe. Parce que vous le savez autant que moi, là, Jésus a prophétisé qu'il y avait la moitié de l'Église qui ne serait pas prête lorsque Jésus reviendrait. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Jésus parle de ces vierges folles, et en plus, c'est vraiment pathétique, parce que c'est l'Église, c'est des femmes, qui des jeunes filles, qui représentent les chrétiens, qui attendent le maître. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de dire « Seigneur reviens, je t'attends, je sais que tu vas revenir » et qui ne sont pas prêts. Que faites-vous des invitations du Seigneur? Ce matin, même si le message est sévère, c'est pas important ça. De toute façon, si vous êtes spirituel, et je vous encourage à le devenir, c'est une invitation du Seigneur. Vous pouvez le tordre comme vous voulez, analyser ma prédication si ça vous chante. Une chose est certaine, cette prédication est une invitation supplémentaire du Seigneur qui vous supplie de vous préparer. Car Jésus ne prendra pas les gens qui n'obéissent pas. Est-ce que c'est écrit ça? Est-ce que c'est écrit? Où? Est-ce que c'est écrit que le Seigneur ne prendra pas les gens qui n'obéissent pas? Regardez, non mais regardons-le, c'est écrit, vous comprenez bien que ce que je vous dis, ce n'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. Mes frères et sœurs, c'est des textes qui parlent sur la venue de Jésus-Christ, sur le retour de Jésus-Christ. Regardez quand même, toute la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens parle du retour du Seigneur. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. C'est quand même sérieux. Trop de gens sont légers. Moi, ça me brise le cœur, franchement. 2 Thessaloniciens 1, verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Mes frères et sœurs, que faites-vous des invitations du Seigneur? Que faites-vous de ses paroles? Où en êtes-vous avec Dieu ce matin? Est-ce que vous pouvez dire, mais oui, je sais où j'en suis, par rapport à ma piété. Je ne parle pas de religion et de présence dans une église, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont dans les églises, qui sont des véritables impies, qui ont un vocabulaire d'une grossièreté, un mépris pour les âmes, et ils ne se rendent pas compte. Je vous assure, moi ça me brise le cœur. Et quand on voit Amos, inspiré par Dieu, qui dit « Mais allez-y, vous ferez des sacrifices avec du levain. » C'est vrai que le gars qui ne connaît pas la Bible, il dira « Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué tout ça. » Mais oui, cela veut dire que Dieu a tout essayé, il a tout essayé et que rien n'y fait. Bien sûr qu'il priait, bien sûr qu'ils offraient des sacrifices, bien sûr qu'ils allaient dans des lieux de culte, mais pas comme Dieu voulait. Il y avait bien l'enveloppe, vous savez l'enveloppe? Vous savez ce que c'est la folle avoine? Les paysans, il y en a des paysans ici? La folle avoine, il y en a partout. Dès que vous sortez de la ville, vous allez sur les chemins, vous avez de l'avoine folle, de l'avoine. Vous avez vu ça déjà? Il faut qu'il y ait des paysans au milieu de nous. Et quand vous appuyez sur l'enveloppe de l'avoine, paf, il n'y a rien dedans. Et quand vous la voyez, on dirait qu'il y a de l'avoine dedans. Et je pense que cette expression, la folle avoine, vient des vierges folles. Il y a l'enveloppe, mais dedans, quand vous appuyez, il n'y a rien. Il y en a plein. Vous sortez de Toulouse, l'été, Vous avez plein, si vous ne savez pas ce que c'est sûr que ça va défiler. Mais il y a plein de faux avoine, partout. Partout, au bord des chemins, c'est facile. Et nous avons vu mardi soir dans le psaume 106, ou à la réunion de prière, nous avons vu la lente rétrogradation de ceux qui finissent par être malheureux. Lisez le psaume 106, méditez ce psaume, et vous verrez comment, petit à petit, on peut oublier Dieu. Vous l'avez, allez, on y va quand même, on a le temps. Ouais. Regardez avec moi dans ce psaume, vous l'avez lu le psaume 106 ? C'est un psaume qui part de louange, qui indique combien on doit louer Dieu, il termine par la louange également. C'est un psaume où l'on voit ce que Dieu veut, d'ailleurs le verset 2 dit « Mais heureux ceux qui observent ta loi, heureux ceux qui pratiquent la justice ». On voit bien que la volonté de Dieu c'est de nous rendre heureux dans la louange et le service, et pourtant ça finit par le malheur. Voyez, on commence à ne plus rendre grâce. Est-ce que vous rendez grâce lorsque vous vous mettez à table ? Est-ce que vous aimez rendre grâce ou vous n'osez pas rendre grâce? Si quelqu'un vient manger à la maison, on ne rend pas grâce, qu'est-ce qu'ils vont penser? Moi, je trouve que c'est bien d'avoir à manger tous les jours. On commence par oublier de rendre grâce. Vous voyez, verset 7. Nos pères ne furent pas attentifs au miracle qu'il y avait eu en Égypte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Vous voyez, on commence à... On ne se rappelle pas. Dieu m'a béni. Oui. C'était peut-être du bol. C'était peut-être le hasard. Verset 12. Ils ne crurent pas à ses paroles. Oui, mais ils chantèrent quand même. Bon, c'est bien. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Vous voyez, cette impatience. Ah, il faut, Seigneur, bénis-moi de suite, sinon je fais autre chose. Si tu ne me donnes pas un mari de suite, eh bien je choisis le mien. Ouais, moi, ça me fait pas rire, je vous le dis. Ils furent saisis de convoitise, ils tentèrent Dieu dans la solitude. Verset 21, ils oublièrent Dieu, leur sauveur. 24, ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Oui, mais ils chantaient quand même. Verset 35, ils se mêlèrent avec les nations. Ah, on est bien avec les inconvertis. Ils apprirent leurs œuvres, ils servirent leurs idoles. Oui, ils étaient bien, les inconvertis. Vous voyez comment ça dégringole ? Verset 43, plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins et ils devinrent malheureux. Vous voyez, c'est des psaumes, ça vaut la peine quand même d'y réfléchir. Vous savez, on ne rétrograde pas d'un coup. On ne tombe pas du jour au lendemain, c'est petit à petit. Et même peut-être quelqu'un est là ce matin et... Il ne se rend pas compte qu'il est en train d'escalader ou de descendre cet escalier infernal. Moi, je vous assure, je suis poussé à partager. Moi, j'ai un sujet qui me préoccupe en ce moment, que j'aurais aimé partager. Mais je sais que depuis lundi dernier, je suis poussé à préparer ce message. Parce que certains d'entre nous sont perdus. Est-ce que vous réalisez ce que ça représente pour le pasteur d'une église, mais surtout pour vous, de croire que vous êtes prêt et que vous ne l'êtes pas. Que vous descendez cet escalier petit à petit, que vous vous éloignez même de l'église, je ne parle pas de dimanche matin, alors que l'église, et c'est une bénédiction de l'église. Est-ce que vous aimez les frères ? Est-ce que vous réalisez que le Seigneur sauvera son peuple au travers de l'église ? D'une église baptisée du Saint-Esprit, qui vit au calvaire, qui comprend le calvaire, qui est crucifié avec le Seigneur. Pour beaucoup de gens, la croix, mais la croix, c'était tout à fait au début de ma conversion, il fallait que je passe par la croix. Non, Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, chaque dimanche, chaque jour. La croix, c'est une expérience, c'est pas de la théologie et de la doctrine super bien expliquée du haut d'une chaire. La croix, c'est une expérience. Je suis crucifié avec le Seigneur. J'ai crucifié la chair, j'ai crucifié le monde, tout ça. On n'en veut pas de ça. S'il vous plaît, pas de ça. Nous, on a besoin d'être encouragés. Eh bien oui, le courage, vous l'aurez au calvaire, croyez-moi. Croyez-moi. Qu'est-ce que je fais des invitations du Seigneur ? Où j'en suis vraiment avec Dieu ? Mets-moi le premier. Où j'en suis vraiment avec le Seigneur. combien de gens parmi nous ne sont pas capables de dire s'ils sont prêts. Il y a des gens qui me disent, je ne sais pas si je suis prêt. Le Seigneur, il le sait. Ben oui. Mes frères et sœurs, est-ce que ce matin vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit qui vous dit au travers de cette exhortation, mais reviens? Ou est-ce que vous continuez à vous contenter de l'enveloppe, de l'apparence? Vous connaissez ce texte dans Ésaïe, ce peuple m'honore des lèvres et de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Et il y a des gens qui sont capables de chanter de la bouche, de dire « Oh Seigneur, merci, Seigneur, merci », mais leur cœur est loin de lui. Et ça, nous devrions, par l'action du Saint-Esprit, savoir quand même, dans un moment comme celui-ci, où le Seigneur veut nous parler, mais où j'en suis, à quelle distance je suis de toi, est-ce qu'il n'y a que l'enveloppe, est-ce que mon cœur est vide, est-ce que je cherche la joie dans le monde, est-ce que je commence à me mêler aux nations, comme cet escalier terrible le rappel dans le psaume 106. Est-ce que je me plais plus avec les païens qu'avec les chrétiens? Est-ce que j'aime plus le monde? Il y a des gens, ils aiment le monde. Pour rien, au monde. Ils ne louperaient ceci ou cela. Je vous avais raconté que dernièrement, j'avais été à la CLC. Et quand je suis rentré, le gars, bonjour monsieur Gou, il m'a reconnu. Ah, tout le monde parle de The Voice. Je ne savais pas ce que c'était moi. Tous les chrétiens qui rentraient. The Voice. J'ai dit, c'est quoi The Voice? Ben, il m'a expliqué. Il me dit, tous les chrétiens parlaient de ça. J'ai dit, mais moi aussi, je veux la voice, j'avais dit, je m'appelle. Moi aussi, je veux entendre la voice. Mais certainement pas la même. Vous allez me dire, oui, tu l'as déjà dit, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous aimez? Vous savez ce que l'apôtre Jacques a dit? Que celui qui se rend ami du monde... Vous connaissez la suite? Notre cœur, est-ce qu'il est attaché à Dieu? Est-ce que c'est vrai ça, que ce qu'on a chanté? Rien n'est plus précieux que tes promesses pour moi, un truc comme ça. Rien n'est plus grand que les promesses de Dieu. Mais rendez compte, si on chante ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai? Dieu sait nous faire réfléchir et pourtant on voit. Vous avez vu tout ce que Dieu fait? Tout ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? De subir? Vous voyez bien que tout est contrôlé par Dieu. Vous avez vu tout ce que Dieu fait? Ça, rien n'y fait. Rien. C'est pour ça qu'il dit, bon, ben, puisque rien n'y fait, je te demande de te préparer. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer le Seigneur? C'est pas moi qui dis, écoutez, soyons sérieux. La parole est claire, Dieu dit, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout. Rien n'y a fait. Alors écoute-moi, je te demande maintenant de te préparer à me rencontrer. Mais le jugement, monsieur Gau, vous avez parlé du jugement parce que ça revient en boucle. Mais le jugement, monsieur Gau, ça ne concerne pas les chrétiens. Le jugement, ça concerne les païens. La condamnation éternelle, ça concerne les païens. Mais le jugement, ça ne parle pas de condamnation. Le jugement, ça veut dire qu'il faudra rendre compte à Dieu. Mais que certains chrétiens ne sont pas prêts. Si Dieu dit « prépare-toi », il faut que vous puissiez dire « mais est-ce que je me prépare ?» Si le Seigneur revenait, imaginez, ça va arriver un de ces quatre, imaginez que le Seigneur revienne dans 5 minutes, dans 30 secondes, allez. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des alléluia. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de pleurs et de grincements dedans. Quand on n'est pas prêt, c'est quand est-ce que c'est qu'on n'est pas prêt au fait? Parce que c'est peut-être ça qu'il faudrait expliquer pour aider les chrétiens. Quand est-ce qu'on n'est pas prêt? Vous savez quand les chrétiens disent « Oh, le péché, c'est pas grave. Oh, j'ai dit les 100 lettres, tu vas pas me faire une flamme pour ça, hein ?» Oh, j'ai parlé mal d'un frère, d'une sœur, ouais, c'est pas grave. Le Seigneur parle de ceux qui foulent aux pieds le sang du Seigneur. C'est écrit ou c'est pas écrit? Paul, qui se réjouissait, qui était rempli de joie, pleurait aussi, par rapport à tous les chrétiens qui ne sont pas prêts. Et la Bible parle de ceux qui foulent le sang de Jésus. Pour qui le péché, bon, il y a des gens qui disent, oh, c'est pas grave, pardon, pardon. Oui, ou le Seigneur le sait. Oui, il le sait, oui. C'est triste d'en arriver là. Combien de gens m'ont dit, mais ce que vous pensez, monsieur Hugo, on s'en fiche. C'est ce que Dieu pense. Mais oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si ce que je vous dis vient de Dieu, vous vous moquez de Dieu. Ça vaudrait peut-être la peine de lire ce texte dans Hébreux chapitre 10 par rapport à ceux qui foulent le sang, ceux qui prennent à la légère tous ces textes, ceux qui prennent à la légère le sang du Seigneur. Quand même. Hébreux chapitre 10, verset 26. C'est un texte qui s'adresse aux chrétiens. Il parle du péché volontaire. Je sais qu'il y a les temps d'ignorance. Je le sais. D'ailleurs, on l'a lu. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais mes frères et sœurs, si vous écoutez la Bible depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car, lisons-le lentement, s'il vous plaît. Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane, c'est-à-dire comme mépris total, du sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, ça s'adresse bien à des chrétiens, oui, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous en pensez de ce texte? Le péché volontaire, ça nous condamne. Oui ou non? Quand j'entends des croyants qui me disent qu'on ne peut pas perdre le salut, mais ça vient directement de l'enfer, cette affaire. Vous savez, quand Paul parle des doctrines de démons, mais moi je vous le dis, c'est archi sérieux. Je rendrai compte à Dieu pour cette prédication. Vous le savez, ça, vous l'avez lu. Pour toutes les prédications, comme tous les pasteurs qui m'écoutent, vous rendrez compte pour toutes les prédications. Un chrétien qui vit volontairement dans le péché, il n'y a qu'une chose qui l'attend, c'est le jugement. Et pourtant, nous avons un Dieu qui nous invite, qui se propose de guérir, de délivrer. Est-ce qu'au calvaire, le Seigneur a la puissance de guérir? Est-ce que ce matin, le Seigneur peut délivrer, guérir, fortifier, renouveler, ramener un homme à la joie du salut? Mais bien sûr. Non, non, parce que quand la Bible dit que les hommes sont inexcusables, ils sont inexcusables en regardant un coucher de soleil. C'est écrit ou c'est pas écrit? Que la nature elle-même nous parle de la divinité de Christ. La nature. Et quelqu'un qui est un petit peu observateur découvre par les lois de la nature que ça vient d'un créateur. Alors à combien plus forte raison, nous qui avons la parole de Dieu, combien nous devrions dire, mais c'est cette affaire de péché, il faut que je le règle. Est-ce que Dieu va nous aider? Mais il l'a déjà fait. Il a déjà tout accompli, ça a été rappelé. Mais Dieu parle, mais est-ce que je l'écoute? Est-ce que j'entends Dieu me parler ou est-ce que je ne l'entends plus? Est-ce que Dieu me parle? Est-ce que Dieu te parle? Quand Dieu dit « je te traiterai de la même manière », Dieu est un Dieu juste. Vous croyez que Dieu est un Dieu juste? Et oui, moi, hier après avoir préparé tout ça, je me tenais devant Dieu, je lisais les psaumes. Mais combien de fois il est dit que Dieu est un juste juge? Mais tout ça, c'est écrit quand il est dit dans l'Ecclésiaste, Dieu t'appellera en jugement. C'est écrit ou c'est pas écrit? au singulier, c'est souvent au singulier, pour que l'on comprenne que c'est personnel. Dieu t'appellera en jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que Dieu veut nous aider. C'est pas pour nous faire peur. Si Dieu voulait nous faire peur, je pense qu'il aurait d'autres moyens. Dieu veut nous interpeller, nous dire, mais c'est vrai, il faut que je me prépare. Vous le savez, vous pouvez être là et ce soir en train de faire des choses abominables. Moi, je me souviens de cette femme un jour qui m'a dit, Monsieur Gaud, j'ai pris le baptême. Le soir, je couchais avec un homme dans une boîte de nuit. Et je ne m'étais pas converti, j'ai pris le baptême pour faire comme les copines. Parce qu'on était plusieurs à se faire baptiser, alors on m'a dit, tu ne veux pas te faire baptiser? Ben oui, je veux faire baptiser. Bon, le pasteur en plus a poussé, allez, fais-toi baptiser, ce serait bien. Et cette fille, pendant des années, a été tourmentée. Jusqu'au jour où elle a compris qu'il fallait qu'elle vienne vraiment au calvaire. Il y a des gens qui sont là dans l'assemblée, il y a des gens qui écouteront ce message, et ils savent très bien qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est une prépare-toi, moi je le vois comme ça, ça fait 33 ans que je prêche, moi je vois qu'une preuve de l'amour du Seigneur. Prépare-toi. Qu'est-ce que vous diriez? Sérieusement, le Seigneur revient, soyons mais vraiment honnêtes. Le Seigneur revient dans la semaine. Vous n'avez pas été enlevé. Qu'est-ce que vous diriez? Vous savez ce que vous direz? Vous savez ce que vous direz? Vous savez ce qui va se passer dans toutes les églises du monde? Toutes les églises du monde. Écoutez bien ce que je dis. Dans toutes les églises du monde, les chrétiens qui ne se seront pas préparés seront furieux contre les pasteurs. Furieux. Vous entendez? Pourquoi? Parce qu'ils se vont tous dire, mais pourquoi il n'a pas insisté? Pourquoi il n'a pas été plus sévère? Oui ou non? C'est exactement ce qui va se passer. Et il y a des gens en enfer qui seront furieux contre leur pasteur toute l'éternité. Ce que je vous dis, je l'ai reçu du Seigneur. Il y a des gens en enfer qui seront furieux contre leur pasteur toute l'éternité parce qu'ils leur diront, c'est ta faute, tu ne nous as pas dit la vérité. Et c'est vrai que ça tient debout ce que je vous dis. Parce que Jésus parle des pasteurs qui ont fermé aux hommes le royaume des cieux, parce qu'ils n'ont pas prêché la repentance, parce que la solution c'est toujours une vraie repentance. Alors Seigneur, il faut que je me prépare joyeusement, parce que se préparer à rencontrer Dieu, c'est une fête, oui ou non, quand on est prêt. La parole de Dieu, elle est claire, mes frères et sœurs, ça ne peut pas être plus clair. Dieu t'appellera. Un jugement. Et les gens y pensent comme si ce n'était pas vrai. Les gens y vivent comme si ce n'était pas vrai. Je parlais tout à l'heure, les choses du monde, mais bien sûr, ça, c'est archi important. Moi, je pense qu'il y a des choses plus importantes que la voiture ou la maison. Cette nuit, dira Jésus à un homme qui s'occupait justement, il demandait à Jésus, en plus, bon, c'est bien qu'il ait fait cette bêtise. Jésus est en train de prêcher, vous voyez, le gars, il n'a pas trouvé mieux. De dire, c'est... Dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. Il a dû se dire, le Seigneur, il fait des choses super. On a un problème d'héritage, ça c'est un gros problème, c'est sûr. Et Jésus me dit, mais qui m'a établi? Vous connaissez l'affaire. Je ne suis pas venu pour être votre juge, pour le moment. Et il donne la parabole de ce riche insensé, vous savez. Et tout ça, c'est bien. C'est bien que ça se soit passé. Parce que Jésus dit, mais cette nuit, ton âme... te sera redemandé. Ah ouais. Vous avez vu tous ces gens qui partent dans ces attentats, dans ces accidents? Vous avez vu le nombre de gens? Ces 20 clochards qui sont morts en Pologne à cause du froid. Dieu a fixé un jour, on l'a lu, Dieu a fixé un jour, nous on est là avec nos jours, notre temps, on a entendu si bien ça jeudi soir, on est enfermé dans le temps. Dieu dit, qu'il a fixé un jour. Il y a un jour dans le calendrier de Dieu, si vous pouviez accéder au bureau du Seigneur, vous verriez que sur l'agenda, il y a un jour qui est fixé. Il y a un jour qui est fixé. Vous le croyez, ça? Il y a un jour qui est fixé. C'est fixé, c'est pas... Jésus ne fait pas du bricolage, excusez-moi l'expression, ça me gêne de parler comme ça. Il n'y a pas de hasard dans les choses spirituelles. Tout est préparé à l'avance. Et croyez-moi, si ce matin Dieu m'a mis cette prédication à cœur, peut-être qu'il y a un enfant, un ado, un jeune qui dit « Mais c'est vrai, je viens, je suis mes parents, il y a des enfants, moi je l'ai entendu plusieurs fois, oh j'aurais préféré naître dans un foyer païen, j'aurais préféré que mes parents ne soient pas chrétiens. » Mes frères et sœurs, naître dans un foyer chrétien, c'est une bénédiction. Et parler comme ça est un signe qu'on est presque à la dernière marche de l'escalier du psaume 106. Mes frères et sœurs, le jour est fixé. Hier, quand je préparais cette prédication, je pensais à ces démons, vous savez, qui ont rencontré Jésus. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont dit à Jésus, écoutez bien, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Les démons ont peur du jour du jugement. Eux, ils savent qu'il y aura un jugement. C'est écrit ou c'est pas écrit? Ils ont peur du jugement, les démons. Quand ils ont vu Jésus, et ils ont supplié Jésus, ils ont prié le Seigneur. Ça fait rire presque. Ils ont prié le Seigneur d'aller dans un troupeau de cochons. Plutôt que de connaître le jugement de Dieu. C'est écrit. Et nous sommes dans un monde qui tout est fait dans le monde. Vous avez vu la quantité de chaînes qu'il y a à la télé. C'est pour que tout le monde y trouve son compte. Il y a un truc pour tout le monde, pour divertir tout le monde. Et le diable est maître dans l'art de divertir les gens, d'empêcher les gens de se préparer. Il y a des gens, ils n'auront pas fini cette prédication, qu'au bout de la rue, ils seront dans la voiture en train déjà d'écouter des musiques mondaines. Vous allez me dire, ouais, mais on peut quand même, monsieur, vous n'allez pas nous amener dans le légalisme. Mes frères et sœurs, moi, il me semble que quand Dieu nous a parlé, ça vaudrait quand même la peine de prendre un peu de temps pour réfléchir. Faites ce que vous voulez. Mais le diable fait tout pour nous empêcher de réfléchir. Et la réflexion doit nous bénir. Vous savez, je lisais hier le proverbe premier, quand Dieu dit, mais ils n'ont pas aimé mes conseils. Ils n'aiment pas mes conseils. On a passé 15 jours sur la surface de la terre à rappeler les prophéties d'Ésaïe. On l'appellera admirable, conseiller. Oh, conseiller. Le Dieu qui donne des conseils, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que vous faites du conseil de ce matin? Car c'est un conseil d'amour, même si je l'exprime mal. Vous pourriez me reprocher de mal présenter les choses, c'est pas grave ça. Le problème c'est pas la forme, c'est le fond. Est-ce que je veux me préparer à rencontrer Dieu? Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu qui est sérieux dans ce pays, qui cherche Dieu? Est-ce qu'il y a une église sérieuse qui cherche Dieu dans ce pays? Notre assemblée dans laquelle Dieu nous a placés, est-ce que elle fait partie des églises qui ont l'approbation divine? Moi c'est important pour moi. Je suis là depuis 19 ans au milieu de vous. Pour moi, je suis pas là pour avoir un salaire. La preuve, c'est que Dieu voulant, quand je serai à la retraite, je continuerai à vous servir sans salaire, parce que c'est ma vocation. Mais mes frères et sœurs, est-ce que cette église cherche Dieu? Est-ce que cette église se prépare à rencontrer Dieu? Quand la trompette va sonner, on n'aura pas le temps. Est-ce que les gens, ils auront le temps de se préparer? Et non! Si la trompette sonnait et que Dieu dise, voilà, il vous reste 5 minutes. Vous avez encore 5 minutes. Je vous dis qu'il y aurait du monde à genoux dans les rues de Toulouse. Mais ça ne se passera pas comme ça. En un clin d'œil. Quand la trompette sonnera, ça sera trop tard. Et les chrétiens qui n'auront pas été sérieux avec ce message, parce qu'ils ne s'intéressent pas à la vérité, à la parole de Dieu, ils aiment Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils ne le croient pas à lui. Vous croyez à moi? J'existe? Est-ce que vous me voyez? Vous croyez à moi, mais est-ce que vous croyez ce que je dis? Vous voyez, c'est pareil. Il y a des gens qui croient en Dieu, pour rien au monde. Mais pour rien au monde, ils avoueraient qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais ils ne le croient pas à lui. Ils ne croient pas ces choses. Comment je considère la croix? Comment je la considère, cette croix? Mes frères et sœurs, aimez les conseils de Dieu. Aimez vous plonger dans la parole. Peut-être que vous êtes dans l'ignorance. Peut-être que quelqu'un vient pour les premières fois. Vous étiez dans l'ignorance. Et béni soit Dieu. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Béni soit son nom. Mais peut-être que ce n'est pas l'ignorance, peut-être que c'est la paresse, peut-être que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous êtes tellement habitué d'être dans un mode pseudo-spirituel que vous croyez être spirituel parce que vous venez à l'église. Mais moi, je vous assure, écoutez mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous le dire, il y a plein de gens au milieu de nous qui ne sont pas prêts. Prépare-toi. Prépare-toi, Dieu va t'aider. Est-ce que Dieu va vous aider? Mais bien sûr. Vous avez vu dans la Bible, Dieu, quelqu'un demandait de l'aide à Dieu et que Dieu a dit non, 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 toi, tu vaux rien. Tu es un pauvre type. Tu es un clodo, tu sens mauvais, tu es un rejet de la société. Non, non, pas toi. Vous avez vu Jésus parler comme ça? Jésus, il a accueilli tout le monde. Et ce matin, vous pouvez dire, mais j'ai honte. Mais qu'est-ce que j'ai honte? Ça fait 20 fois que j'entends cette prédication, 20 fois que Dieu me parle. Ça fait 30 fois et j'ai pas fait un pas. La patience de Dieu, tant que la porte est ouverte, est notre salut. Moi, je suis bouleversé devant la patience du Seigneur. Vous trouvez pas ça merveilleux? Dieu qui, pour la 30e fois, la 40e fois, dans Amos, on a dû 5 fois, il n'écoutait rien. Mais est-ce que vous avez envie que Dieu vous envoie une épreuve? Une épreuve terrible pour vous ramener à lui? Vous n'avez pas vu des gens qui ont... Il a fallu qu'ils aient le cancer et qu'en phase terminale, pardon, pardon pour mes péchés. Moi, j'ai vu un homme qui était dans une méchanceté toute sa vie. Il a été méchant avec sa femme, mais d'une méchanceté, il a empêché d'aller à l'église. Mais méchant. Et sa femme est morte. Bien sûr, j'allais la voir de temps en temps, avant. Et le jour, quand elle est morte, son mari, il a eu un choc. Et quelques jours après, il est tombé gravement malade. Et je vais le voir. Cet homme qui avait été méchant, il était là sur le lit, Monsieur Gou, il me dit, est-ce que Jésus peut me pardonner? J'ai failli dire non. J'ai dit, mais vous plaisantez? Et j'ai dû dire oui comme ça sûrement. Je dis oui, Dieu vous peut vous pardonner. Et cet homme, il a demandé pardon à Dieu. Mais vraiment, j'ai prié, il a prié, il a demandé pardon à Dieu. Et il est mort quelques jours après. Il s'était préparé, il a fallu un choc, une maladie. Il est au ciel, vous allez me dire, il vaut mieux rentrer juste à la dernière seconde. Mais vous ne croyez pas que c'est quand même mieux sur la terre d'utiliser sa vie, toute sa vie, le plus tôt possible, pour se consacrer à lui et pour le servir? Faites un choix, ce matin c'est un choix, c'est un choix, que ta volonté soit faite. Je veux choisir la sainteté, je choisis le service, je choisis la communion avec les frères, je fais ce choix maintenant, je choisis d'aimer le Seigneur de tout mon cœur. Je termine avec ce verset, quand il est dit dans 2 Corinthiens 5, 9, choisissons de lui être agréable, ne le cherchez pas, choisissons de lui être agréable, c'est un choix. Nous efforçons-nous de lui être agréable. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Efforçons-nous. Vous voulez vous efforcer d'être agréable? Est-ce que vous êtes d'accord pour fermer les yeux quelques instants? Est-ce que vous pouvez répondre à ce message? C'est personnel. Vous avez vu dans le prophète Amos, comme souvent, Dieu parle au pluriel. Au pluriel, je vous ai parlé, je vous ai parlé, je vous ai fait ci, je vous ai fait là, tout le chapitre. Et le dernier appel, prépare-toi, c'est au singulier, parce que de toute façon, c'est personnel. Personne ne peut se convertir à votre place, personne ne peut se repentir à votre place, personne ne peut choisir à votre place, même si à côté de vous, avez la personne la plus aimante qui vous supplie de vous convertir, c'est vous qui vous convertirez. C'est vous qui ce matin répondrez. Dieu du haut des cieux, c'est écrit plusieurs fois, regarde, tous les fils de l'homme, tous, on l'a vu dimanche dernier, roi de la terre, conduisez-vous avec sagesse, alors que le jugement arrive, et Dieu s'adresse au roi, ça prouve qu'il aime tout le monde, pourtant il y a des rois qui ont un comportement d'une impiété pas possible, et pourtant on voit dans le psaume 2, Dieu dit au roi, conduisez-vous avec sagesse. Je ne sais pas qui écoutera cette prédication, peut-être des clochards, peut-être des ministres, peut-être, je ne sais pas, des notables, mais tous les hommes, tous, en tout lieu, doivent se préparer. Alors qu'on reste les yeux fermés. Je voudrais demander, il y a peut-être des jeunes ici, des ados. Vous êtes là, mais vous aimez le monde. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Celui qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Je n'ai pas d'aimer le ski, d'aller faire un peu de ski, d'aller faire un peu de tennis, d'aller faire de l'aviron, je ne sais rien. Il y a des choses qui sont saines. Mais il y a des gens qui aiment le monde, l'esprit du monde, la mentalité du monde. Alors avant de prier, je vais demander à ceux, parce qu'on est quand même devant Dieu. Mais mes frères et sœurs, c'est sérieux. Je vous assure, moi, mon cœur, il est brisé par les chrétiens qui sont là depuis des années, qui ne sont pas prêts. Je voudrais faire un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ce matin, je choisis la sainteté. Je choisis la volonté de Jésus. Je vais lui demander de se lever. On est sous le regard de Dieu. S'il vous plaît, on reste tous les yeux fermés. Il y a des moments comme ça, il vaut mieux pas les louper, croyez-moi. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, c'était pour moi. Je me lève. Vraiment, je me lève. Je veux me préparer. Levez-vous. Levez-vous sans honte, sans vergogne. Levez-vous sans crainte. Au contraire, au contraire. Au contraire, levez-vous avec grâce. Il va vous aider. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu aide, il voit si vous êtes un paresseux et que maintenant vous allez dire « Oh oui, je vais me lever pour faire partie de ceux qui prient. » Eh bien, Dieu va vous aider. Il ne peut pas ne pas vous aider, ce n'est pas possible. Que personne ne s'imagine quand vous passerez devant Dieu, que vous lui direz « Seigneur, je t'ai demandé de l'aide, tu ne m'as pas aidé, ce n'est pas bien. » Écoutez-moi, ça ne se présentera jamais cette affaire. Si vous demandez de l'aide, Dieu va vous aider. Il y a des chrétiens ici de longue date. Vous devez vous lever. Enfin, vous devriez vous lever. Et dire « Seigneur, pardon. » C'est mon acte de foi, je me lève. Je me lève de bon cœur, Seigneur. Je veux être prêt, je veux être prête. J'ai que l'enveloppe. J'ai que la religion. J'ai que l'apparence. Je veux prier pour ceux qui se lèvent. Il y en a qui n'osent pas. Osez ! Osez vous lever. C'est pas devant un frère, une sœur, votre conjoint, votre pasteur. C'est devant Dieu. Que vous manifestez une foi vivante. On va prier, frères et sœurs, vraiment. Notre Père, jamais nous ne te remercierons assez pour ces invitations répétées, ces invitations qui parcourent la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, malgré le péché, la désobéissance. Tu n'arrêtes pas d'inviter les hommes. Tu es bon, Seigneur. Merci de ne pas nous condamner, mais de nous aider à nous lever, oui. À choisir la vie, la croix. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Et non seulement nous te prions pour les chrétiens de cette église, mais pour tous les chrétiens de ce pays. Afin que dans ce pays de France, dans ce pays, Seigneur, des hommes et des femmes se préparent à te rencontrer. Car nous voulons être avec toi, Seigneur, pour le restant de notre vie. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.